L'épisode. Cette femme, je l'ai vue de mes yeux attirer les astres du ciel. Elle détourne par ses incantations le cours d'un fleuve rapide. Sa voix fait s'entrouvrir le sol, sortir les mannes du tombeau, descendre les ossements du bûcher tiède. Quand elle veut, elle dissipe les nuages qui attristent le ciel. Quand elle veut, elle fait tomber la neige dans un ciel d'été. Catulle 1-2. Compte que cette nuit tu auras des tremblements et des convulsions. Les démons, pendant tout ce temps de nuit profonde où il leur est permis d'agir, exerceront sur toi leur cruelle malice. Je t'enverrai des pincements aussi serrés que les cellules de la ruche, et chacun d'eux sera aussi brûlant que l'aiguillon de l'abeille qui l'a construit. Shakespeare, La Tempête, acte 2, scène 2. Qui de vous ne connaît, ô jeune fille, les doux caprices des femmes, dit Ptolémon réjoui. Vous avez aimé sans doute, et vous savez comment le cœur d'une veuve pensive qui égare ses souvenirs solitaires sur les rives ombragées du Pénée se laisse surprendre quelquefois par le teint rembruni d'un soldat dont les yeux étincellent du feu de la guerre et dont le sein brille de l'éclat d'une généreuse cicatrice. Il marche fier et tendre parmi les belles comme un lion apprivoisé qui cherche à oublier dans les plaisirs d'une heureuse et facile servitude le regret de ses déserts. C'est ainsi que le soldat aime à occuper le cœur des femmes quand il n'est plus appelé par le clairon des batailles et que les hussards du combat ne sollicitent plus son ambition impatiente. Il sourit du regard aux jeunes filles et il semble leur dire « Aimez-moi ». Vous savez aussi, puisque vous êtes thessalienne, qu'aucune femme n'a jamais égalé en beauté cette noble Méroé qui, depuis son veuvage, traîne de longues draperies blanches brodées d'argent. Méroé, la plus belle des belles de Thessalie, vous le savez. Elle est majestueuse comme les déesses, et cependant il y a dans ses yeux je ne sais quelle flamme mortelle qui enhardissent les prétentions de l'amour. Oh, combien de fois je me suis plongé dans l'air qu'elle entraîne, dans la poussière que ses pieds font voler, dans l'ombre fortunée qui la suit. Combien de fois je me suis jeté au-devant de sa marche pour dérober un rayon à ses regards, un souffle à sa bouche, un atome au tourbillon qui flatte, qui caresse ses mouvements. Combien de fois, Thélaïre, me le pardonneras-tu, j'épiais la volupté brûlante de sentir un des plis de sa robe frémir contre ma tunique, ou de pouvoir ramasser d'une lèvre avide une des paillettes de ses broderies dans les allées des jardins de Larissa. Quand elle passait, vois-tu, tous les nuages rougissaient comme à l'approche de la tempête, mes oreilles sifflaient, mes prunelles s'obscurcissaient dans leur orbite égarée, mon cœur était près de s'anéantir sous le poids d'une intolérable joie. Elle était là. Je saluais les ombres qui avaient flotté sur elle, j'aspirais l'air qui l'avait touchée, je disais à tous les arbres des rivages « Avez-vous vu, Méroé ?» Si elle s'était couchée sur un banc de fleurs, avec quel amour jaloux je recueillais les fleurs que son corps avait froissées, les blancs pétales imbibés de carmin qui décorent le front penché de l'anémone, les flèches éblouissantes qui jaillissent du disque d'or de la marguerite, le voile d'une chaste gaze qui se roule autour d'un jeune lys avant qu'il ait souri au soleil. Et si j'osais presser d'un embrassement sacrilège tout ce lit de fraîche verdure, elle m'incendiait d'un feu plus subtil que celui dont la mort a tissé les vêtements nocturnes d'un fiévreux. Méroé ne pouvait pas manquer de me remarquer. J'étais partout. Un jour, à l'approche du crépuscule, je trouvais son regard, il souriait. Elle m'avait devancé, son pas se ralentit. J'étais seul derrière elle et je la vis se détourner. L'air était calme, il ne troublait pas ses cheveux et sa main soulevée s'en rapprochait comme pour réparer leur désordre. Je la suivis, Lucius, jusqu'au palais, jusqu'au temple de la princesse de Thessalie, et la nuit descendit sur nous, nuit de délices et de terreurs. Puisse-t-elle avoir été la dernière de ma vie, et avoir fini plus tôt? Je ne sais si tu as jamais supporté, avec une résignation mêlée d'impatience et de tendresse, le poids du corps d'une maîtresse endormie qui s'abandonne au repos sur ton bras étendu, sans s'imaginer que tu souffres. Si tu as essayé de lutter contre le frisson qui saisit peu à peu ton sang, contre l'engourdissement qui enchaîne ses muscles soumis, de t'opposer à la conquête de la mort qui menace de s'étendre jusqu'à ton âme. C'est ainsi, Lucius, qu'un frémissement douloureux parcourait rapidement mes nerfs en les ébranlant de tremblements inattendus comme le crochet aigu du plectrum qui fait dissonner toutes les cordes de la lyre sous les doigts d'un musicien flabile. Ma chair se tourmentait comme une membrane sèche approchée du feu. Ma poitrine soulevée était près de rompre en éclatant les liens de fer qui l'enveloppaient, quand Méroé, tout à coup assise à mes côtés, arrêta sur mes yeux un regard profond et tendit sa main sur mon cœur pour s'assurer que le mouvement n'était suspendu. Il y reposa longtemps, pesante et froide, et s'enfuit loin de moi, de toute la vitesse d'une flèche que la corde de l'arbalète repousse en frémissant. Elle courait sur les marbres du palais, en répétant les airs des vieilles bergères de Syracuse qui enchantent la lune dans ses nuages de nacre et d'argent, tournait dans les profondeurs de la salle immense et criait de temps à autre avec les éclats d'une gaieté horrible pour rappeler je ne sais quels amis qu'elle ne m'avait pas encore nommés. Pendant que je regardais, plein de terreur, et que je voyais descendre le long des murailles, se presser sous les portiques, se balancer sous les voûtes, une foule innombrable de vapeurs distinctes les unes des autres, mais qui n'avaient de la vie que des apparences de forme, une voix faible comme le bruit de l'étang le plus calme dans une nuit silencieuse, une couleur indécise empruntée aux objets devant lesquels flottaient leurs figures transparentes. La flamme azurée et pétillante jaillit tout à coup de tous les trépieds et Méroé, formidable, volait de l'un à l'autre en murmurant des paroles confuses. Ici, de la verveine en fleurs, là, trois brins de sauge cueillis à minuit dans le cimetière de ceux qui sont morts par l'épée. Ici, le voile de la bien-aimée, sous lequel le bien-aimé cacha sa pâleur ou sa désolation après avoir égorgé l'époux endormi pour jouir de ses amours. Ici encore, les larmes d'une tigresse excédée par la faim qui ne se console pas d'avoir dévoré un de ses petits. Et ses traits renversés exprimaient tant de souffrance et d'horreur qu'elle me fit presque pitié. Inquiète de voir ses conjurations suspendues par quelque obstacle imprévu, elle bondit de rage, s'éloigna, revint armée de deux longues baguettes d'ivoire, liées à leur extrémité par un lacet composé de 13 crins détachés du cou d'une superbe cavale blanche par le voleur même qui avait tué son maître, et sur la tresse flexible, elle fit voler le rhombus d'ébène aux globes vides et sonores qui bruit et hurla dans l'air et revint en roulant avec un grondement sourd et roula encore en grondant et puis se ralentit et tomba. les flammes de trépied se dressaient comme des langues de couleuvre, et les ombres étaient contentes. « Venez, venez !» criait Méroé. « Il faut que les démons de la nuit s'apaisent et que les morts se réjouissent. Apportez-moi de la verveine en fleurs, de la sauge cueillie à minuit et du trèfle à quatre feuilles. Donnez des moissons de jolis bouquets à Saga et aux démons de la nuit. » Puis, tournant un œil étonné sur l'aspic d'or dont les replis s'arrondissaient autour de son bras nu, sur le bracelet précieux, ouvrage du plus habile artiste de Thessalie, qui n'y avait épargné ni le choix des métaux, ni la perfection du travail, l'argent était incrusté en écailles délicates, et il n'y avait pas une dont la blancheur ne fût relevée par l'éclat d'un rubis ou par la transparence si douce au regard d'un saphir plus bleu que le ciel. Elle le détache, elle médite, elle rêve, elle appelle le serpent en murmurant des paroles secrètes. Et le serpent animé se déroule et fuit avec un sifflement de joie comme un esclave délivré. Et le rhombus roule encore, il roule toujours en grondant, il roule comme la foudre éloignée qui se plaint dans des nuages emportés par le vent et qui s'éteint en gémissant dans un orage fini. Cependant, toutes les voûtes s'ouvrent, tous les espaces du ciel se déploient, tous les astres descendent, tous les nuages s'aplanissent et baignent le seuil comme des parvis de ténèbres. La lune, tachée de sang, ressemble au bouclier de fer sur lequel on vient de rapporter le corps d'un jeune spartiate égorgé par l'ennemi. Elle roule et appesantit sur moi son disque livide, qu'obscurcit encore la fumée des trépieds éteints. Méroé continuait à courir en frappant de ses doigts, d'où jaillissent de longs éclairs, les innombrables colonnes du palais, et chaque colonne qui se divise sous les doigts de Méroé découvre une colonnade immense qui est peuplée de fantômes, et chacun des fantômes frappe comme elle une colonne qui ouvre des colonnades nouvelles, et il n'y a pas une colonne qui ne soit témoin du sacrifice d'un enfant nouveau-né arraché aux caresses de sa mère. « Pitié, pitié, m'écriai-je, pour la mère infortunée qui dispute son enfant à la mort !» Mais cette prière étouffée n'arrivait à mes lèvres qu'avec la force du souffle d'un agonisant qui dit « Adieu !» Elle expirait en sons inarticulés sur ma bouche balbutiante. Elle mourait comme le cri d'un homme qui se noie et qui cherche en vain à confier aux eaux muettes le dernier appel du désespoir. L'eau insensible étouffe sa voix, elle le recouvre morne et froide, elle dévore sa plainte, elle ne le portera jamais jusqu'au rivage. Tandis que je me débattais contre la terreur dont j'étais accablé et que j'essayais d'arracher de mon sein quelque malédiction qui réveilla dans le ciel la vengeance des dieux. « Misérable !» s'écria Méroé, « sois puni à jamais de ton insolente curiosité. Ah, tu oses violer les enchantements du sommeil. Tu parles, tu cries et tu vois. » Eh bien, tu ne parleras plus que pour te plaindre, tu ne crieras plus que pour implorer en vain les sourdes pitiés des absents, tu ne verras plus que des scènes d'horreur qui glaceront ton âme. » Et en s'exprimant ainsi, avec une voix plus grêle et plus déchirante que celle d'une hyène égorgée qui menace encore les chasseurs, elle détachait de son doigt la turquoise chatoyante qui étincelait des flammes variées, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ou comme la vague qui bondit à la marée montante et réfléchit en se roulant sur elle-même les feux du soleil levant. Elle presse du doigt son ressort inconnu, qui soulève la pierre merveilleuse sur sa charnière invisible et découvre dans un écrin d'or je ne sais quel monstre sans couleur et sans forme qui bondit, hurle, s'élance et tombe accroupi sur le sein de la magicienne. Te voilà, dit-elle, mon cher Smarra, le bien-aimé, l'unique favori de mes pensées amoureuses. Toi que la haine du ciel a choisi dans tous ses trésors pour le désespoir des enfants de l'homme. Va, je te l'ordonne, spectre flatteur ou décevant ou terrible, va tourmenter la victime que je t'ai livrée. Fais-lui des supplices aussi variés que les épouvantements de l'enfer qui t'a conçu, aussi cruel, aussi implacable que ma colère. Va te rassasier des angoisses de son cœur palpitant, compte les battements convulsifs de son pouls qui se précipite, qui s'arrête, contempler sa douloureuse agonie et la suspendre pour la recommencer. À ce prix, fidèle esclave de l'amour, tu pourras au départ des songes redescendre sur l'oreiller embaumé de ta maîtresse et presser dans tes bras caressants la reine des terreurs nocturnes. Elle dit, et le monstre jaillit de sa main brûlante comme le palais arrondi du discobol. Il tourne dans l'air avec la rapidité de ces feux artificiels qu'on lance sur les navires, étend des ailes bizarrement festonnées, monte, descend, grandit, se rapetisse, et, nain difforme et joyeux, dont les mains sont armées d'ongles d'un métal plus fin que l'acier, qui pénètrent la chair sans la déchirer et boivent le sang à la manière de la pompe insidieuse des sangsues. Il s'attache sur mon cœur, se développe, soulève sa tête énorme et rit. En vain mon œil, fixé d'effroi, cherche dans l'espace qu'il peut embrasser un objet qui le rassure. Les mille démons de la nuit escortent l'affreux démon de la turquoise. Des femmes rabougries au regard ivre, des serpents rouges et violets dont la bouche jette du feu, des lézards qui élèvent au-dessus d'un lac de boue et de sang un visage pareil à celui de l'homme, des têtes nouvellement détachées du tronc par la hache du soldat, mais qui me regardent avec des yeux vivants et s'enfuient en sautillant sur des pieds de reptiles. Oh, depuis cette nuit funeste, ô Lucius, il n'est plus de nuit paisible pour moi. La couche parfumée des jeunes filles qui n'est ouverte qu'aux songes voluptueux, l'attente infidèle du voyageur qui se déploie tous les soirs sous de nouveaux ombrages, le sanctuaire même des temples est un asile impuissant contre les démons de la nuit. À peine mes paupières, fatiguées de lutter contre le sommeil si redouté, se ferment d'accablement, tous les monstres sont là, comme à l'instant où je les ai vus s'échapper avec Smarra de la bague magique de Méroé. Ils courent en cercle autour de moi, m'étourdissent de leurs cris, m'effraient de leurs plaisirs et souillent mes lèvres frémissantes de leurs caresses de harpies. Méroé les conduit et plane au-dessus d'eux, en secouant sa longue chevelure d'où s'échappent des éclairs d'un bleu livide. Hier encore, elle était bien plus grande que je ne l'ai vue autrefois. C'étaient les mêmes formes et les mêmes traits, mais sous leur apparence séduisante, je discernais avec effroi, comme au travers d'une gaze subtile et légère, le teint plombé de la magicienne et ses membres couleur de soufre. Ses yeux fixes et creux étaient tout noyés de sang. Des larmes de sang sillonnaient ses joues profondes, et sa main, déployée dans l'espace, laissait imprimer sur l'air même la trace d'une main de sang. « Viens !» me dit-elle en m'effleurant d'un signe du doigt qui m'aurait anéanti s'il m'avait touché. « Viens visiter l'Empire !» que je donne à mon époux, car je veux que tu connaisses tous les domaines de la terreur et du désespoir. » Et en parlant ainsi, Elle volait devant moi, les pieds à peine détachés du sol, et s'approchant ou s'éloignant alternativement de la terre, comme la flamme qui danse au-dessus d'une torche prête à s'éteindre. Oh, que l'aspect du chemin que nous dévorions en courant était affreux à tous les sens! Que la magicienne elle-même paraissait impatiente d'en trouver la fin! Imagine-toi le caveau funèbre où elle entasse les débris de toutes les innocentes victimes de leur sacrifice, et parmi les plus imparfaits de ces restes mutilés, pas un lambeau qui n'ait conservé une voix, des gémissements et des pleurs. Imagine-toi des murailles mobiles et animées, qui se resserrent de part et d'autre au-devant de tes pas, et qui embrassent peu à peu tous tes membres de l'enceinte d'une prison étroite et glacée. Ton sein oppressé qui se soulève, qui tressaille, qui bondit pour aspirer l'air de la vie à travers la poussière des ruines, la fumée des flambeaux, l'humidité des catacombes, le souffle empoisonné des morts, et tous les démons de la nuit qui crient, qui sifflent, hurlent ou rugissent à ton oreille épouvantée. Tu ne respireras plus. Et pendant que je marchais, un insecte, mille fois plus petit que celui qui attaque d'une dent impuissante le tissu délicat des feuilles de rose, un atome disgracié qui passe 1000 ans à imposer un de ses pas sur la sphère universelle des cieux, dont la matière est 1000 fois plus dure que le diamant. Il marchait. Il marchait aussi. Et la trace dessinée de ses pieds paresseux avait divisé ce globe impérissable jusqu'à son axe. Après avoir parcouru ainsi, tant notre élan était rapide, une distance pour laquelle les langages de l'homme n'ont point de terme de comparaison, je vis jaillir de la bouche d'un soupirail, voisin comme le plus éloigné des étoiles, quelques traits d'une blanche clarté. Pleine d'espérance, Méroé s'élança. Je la suivis, entraîné par une puissance invincible, et d'ailleurs le chemin du retour, effacé comme le néant, infini comme l'éternité, venait de se fermer derrière moi d'une manière impénétrable au courage et à la patience de l'homme. Il y avait déjà, entre Laris et nous, tous les débris des mondes innombrables qui ont précédé celui-ci dans les essais de la création, depuis le commencement des temps et dont le plus grand nombre ne le surpasse pas moins en immensité qu'il n'excède lui-même de son étendue prodigieuse, le nid invisible du moucheron. La porte sépulcrale qui nous reçut, ou plutôt qui nous aspira, au sortir de ce gouffre, s'ouvrait sur un champ sans horizon qui n'avait jamais rien produit. On y distinguait à peine un coin reculé du ciel, le contour indécis d'un astre immobile et obscur, plus immobile que l'air, plus obscur que les ténèbres qui règnent dans ce séjour de désolation. C'était le cadavre du plus ancien des soleils, couché sur le fond ténébreux du firmament, comme un bateau submergé sur un lac grossi par la fonte des neiges. La lueur pâle qui venait de frapper mes yeux ne provenait point de lui. On aurait dit qu'elle n'avait aucune origine et qu'elle n'était qu'une couleur particulière de la nuit, à moins qu'elle ne résultât de l'incendie de quelque monde éloigné dont la cendre brûlait encore. Alors, le croiras-tu? Elles vinrent, toutes, les sorcières de Thessalie, toutes escortées de ces mains de la terre qui travaillent dans les miennes, qui ont un visage comme le cuivre et des cheveux bleus comme l'argent dans la fournaise, de ces salamandres aux longs bras, à la queue aplatie en rame, aux couleurs inconnues, qui descendent vivantes et agiles du milieu des flammes comme des lézards noirs à travers une poussière de feu. Elles vinrent, suivies des espioles qui ont le corps si frêle, si élancé, surmonté d'une tête difforme, mais riante, et qui se balancent sur les ossements de leurs jambes vides et grêles, semblables à un chaume stérile agité par le vent. Des acromes qui n'ont point de membres, point de voix, point de figure, point d'âge, et qui bondissent en pleurant sur la terre gémissante comme des outres gonflées d'air. Des psylles qui sucent un venin cruel et qui, avides de poison, dansent en rond en poussant des sifflements aigus pour éveiller les serpents, pour les réveiller dans l'asile caché, dans le trou sinueux des serpents. Il y avait là jusqu'aux morphoses que vous avez tant aimées, qui sont belles comme Psyché, qui jouent comme les Grâces, qui ont des conserves comme les Muses, et dont le regard séducteur, plus pénétrant, plus envenimé que la dent de la vipère, va incendier votre sang et faire bouillir la moelle dans vos os calcinées. Tu les aurais vues, enveloppées dans leur linceul de pourpre, promener autour d'elles des nuages plus brillants que l'Orient, plus parfumés que l'encens d'Arabie, plus harmonieux que le premier soupir d'une vierge attendrie par l'amour, et dont la vapeur enivrante fascinait pour la tuer. Tantôt, leurs yeux roulent une flamme humide qui charme et qui dévore. Tantôt, elles penchent la tête avec une grâce qui n'appartient qu'à elles, en sollicitant votre confiance crédule d'un sourire caressant, du sourire d'un masque perfide et animé qui cache la joie du crime et la laideur de la mort. Oh, que te dirais-je ? Entraîné par le tourbillon des esprits qui flottait comme un nuage, comme la fumée d'un rouge sanglant qui descend d'une ville incendiée, comme la lave liquide qui répand, croise, entrelace des ruisseaux ardents sur une campagne de cendres, j'arrivais. Tous les sépulcres étaient ouverts, tous les morts étaient exhumés, toutes les goules pâles, impatientes, affamées, étaient présentes. Elle brisait les ailes des cercueils, déchirait les vêtements sacrés, les derniers vêtements du cadavre, se partageait d'affreux débris avec une plus affreuse volupté et d'une main irrésistible, car j'étais hélas faible et captif comme un enfant au berceau. Elle me forçait à m'associer. Ah, terreur, à leurs exécrables festins! En achevant ces paroles, Polémon se souleva sur son lit et, tremblant, éperdu, les cheveux hérissés, le regard fixe et terrible, il nous appela d'une voix qui n'avait rien d'humain. Mais les airs de la harpe de Myrtée volaient déjà dans les airs. Les démons étaient apaisés. Le silence était calme comme la pensée de l'innocent qui s'endort la veille de son jugement. Polémon dormait paisible au doux son de la harpe de Myrtée.